Mais Jeff m'a bien facilité la vie puisqu'il terminait en disant que Dieu avait un plan pour nous. Et si je devais donner un titre à ce que j'ai préparé pour ce matin, ça serait « Comment être des prophètes au XXIe siècle ?» Et donc, bien être là dans le plan de Dieu. Alors nous venons de passer quelques semaines où les méditations des quatre dimanches de l'Avent nous ont orientés vers la bonne nouvelle de la venue de Jésus, venu pour devenir notre frère, pour porter notre fardeau à notre place et pour nous apporter le repos. Nous avons vécu la fête de Noël qui a permis pour beaucoup d'entre nous de nous réjouir en famille ou au temple. Et je me suis effectivement demandé pendant un moment qu'est-ce que je pourrais bien ajouter dans cette ambiance. Et du coup, je me suis tourné vers le plan de lecture de la Bible en 6 ans que nous propose la Fédération protestante. Et j'ai regardé quels étaient les textes pour ce jour. Et voici que j'ai lu le texte d'un prophète, le prophète Amos. Et ce qu'il nous est proposé de lire, c'est ce que l'on trouve au chapitre 6. Hélas pour vous qui vivez tranquille à Sion, et pour vous qui habitez sans souci sur la colline de Samarie, vous êtes, paraît-il, l'élite de la première des nations. Et les Israélites se tournent vers des gens comme vous. Rendez-vous plutôt à Calné pour voir ce qui s'est passé. Ensuite, allez de là jusqu'à Hamath, la grande ville, puis descendez à Gath chez les Philistins. Vous le constaterez, vous ne valez pas mieux que ces royaumes-là, même si leur territoire est plus petit que le vôtre. Vous cherchez à reculer le jour du malheur. En réalité, vous rapprochez le règne de la violence. Vous êtes allongés sur des lits décorés d'ivoire, étendus sur vos divans pour déguster de l'agneau et manger du veau gras. Vous chantez à tue-tête au son de la harpe. Pour imiter David, vous créez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez le vin dans de larges coupes et vous vous parfumez avec l'huile les plus fines. Mais vous ne vous affligez pas du désastre qui menace les tribus de Joseph. C'est pourquoi j'annonce maintenant que vous serez en premier rang de ceux que l'on déportera. Fini la fête pour les fainéants. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, a fait le serment que voici. Aussi vrai que je suis Dieu, dis-je, l'orgueil du royaume d'Israël me répugne profondément. Je déteste ces belles maisons. Je livrerai à ses ennemis tout ce qu'il y a dans Samarie. Et un peu plus loin, au verset 12, est-ce que les chevaux courent sur les rochers? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs? Pourquoi donc avez-vous changé le droit en poison et une conduite juste en quelque chose d'amer? Vous fêtez votre victoire de Lodabar, la dérisoire. Vous dites, nous sommes assez forts pour avoir repris Karnaïm, la double corne. Mais moi, dit le Seigneur, le Dieu de l'univers, je vais dresser contre vous, royaume d'Israël, une nation qui vous fera sentir son pouvoir de l'Ebodamat au nord jusqu'au torrent de Araba au sud. Évidemment, ce texte lu dans la période de Noël casse un peu l'ambiance. J'en suis conscient. Mais avant de revenir sur son sens et sur l'intérêt de le lire aujourd'hui, permettez-moi de vous donner quelques repères géographiques et historiques. Donc voici ici la carte, alors non pas du voyage d'Abraham, bien qu'on aurait pu le retracer aussi là-dessus, mais carte qui nous permet d'avoir quelques différents états de l'extension de l'empire des Assyriens, donc une partie de cette partie-là enfoncée, puis s'étendant, suivant les périodes, dans ces différentes zones. Et les trois villes dont nous avons parlé dans le texte, Calné, Hamath et Gath, sont ici. Et si vous arrivez à lire les dates ici, on se situe donc à une période de l'extension de l'empire des Assyriens qui est entre la zone en orange ici, puis celle en orange plus clair. Donc ces parties-là ont été déjà envahies par les Assyriens. Le prophète Amos intervient effectivement dans une période assez courte, entre 760 et 750 avant Jésus-Christ. En Israël, c'est la fin du règne long et prospère du roi Jéroboam II, qui a achevé victorieusement une guerre de 100 ans qui opposait Israël et la Syrie depuis le règne d'Akab. Pour mener à bien cette guerre, le roi d'Israël a profité de ce que la Syrie était affaiblie, puisqu'elle aussi a été attaquée par les Assyriens. Mais ça ne l'empêche pas de tirer une grande fierté personnelle de cette victoire, puisque nous avons lu,
pas tout à fait dans l'ordre que je m'attendais.
Voilà. Donc vous fêtez, c'est cette façon un peu dérisoire de fêter la victoire avec une ville dont le nom, Lodabar, signifie effectivement rien. Mais le roi en tire une grande fierté. Et en lisant les notes introductives du prophète Amos qu'on peut trouver dans la nouvelle traduction de la Bible Second, on trouve ces informations. Avec la paix, la prospérité s'est étendue en Israël, au moins pour certaines couches de la population, grâce aux échanges commerciaux. Mais la fortune des uns s'édifie aux dépens des autres. Et l'inégalité criante règne partout. Un siècle auparavant, Akab s'était attaqué en la personne de Naboth. Je pense que cette histoire de la vigne de Naboth évoque quelque chose pour vous. Donc Akab s'était attaqué à une institution qui était celle du patrimoine inaliénable, suivant lequel une famille israélite devait pouvoir posséder sa maison et son champ. Et cette terre ne pouvait être vendue parce qu'elle n'appartenait qu'à Dieu. Sous Jéroboam, l'affairisme a gagné l'ensemble des classes dirigeantes. Les paysans, pour payer leurs dettes, doivent se défaire de leur patrimoine, devenus simples métayers et acculés par de nouvelles dettes, ils en viennent à vendre leur propre famille et eux-mêmes comme esclaves. Et Amon dénonce violemment cette pratique et son message retentit comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Pourquoi donc avez-vous changé le droit en poison et une conduite juste en quelque chose d'amer? Mais revenons-en à cette question maintenant. Pourquoi lire un tel texte entre Noël et le jour de l'an? Pour culpabiliser ceux qui, affaiblis par une première crise de foi, se sont reconnus dans cette phrase « Fini la fête pour les fainéants ». Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais effectivement, je me suis senti très mal à l'aise à la lecture de ce texte. Et la lecture des notes introductives qui soulignent l'incroyable actualité de ce texte vieux de près de 3000 ans a rajouté une couche à mon malaise. Est-ce que j'en fais assez pour dénoncer et lutter contre cette inégalité criante qui règne partout à notre époque, comme à celle d'Amos ? Et un autre sentiment peut également naître à la lecture de ce texte, le découragement. Cette inégalité criante est présente sur la terre depuis l'origine. Pourquoi lutter contre? Et ce malaise et ce découragement peuvent sans doute être légitimes. On ne peut jamais avoir la conscience complètement tranquille face à la misère qui nous entoure, au près comme au loin. Alors on peut tenter d'échapper à ce sentiment en se disant « Oui, mais il y en a d'autres qui sont mieux formés que nous. » Par exemple, Amos, grand prophète, était spécialement préparé pour cette mission. Mais si vous avez la curiosité de creuser cette piste, vous apprendrez qu'Amos était un éleveur de bovins et cultivateur de sycomores, dont les fruits étaient utilisés pour nourrir les animaux. Comme il était originaire des environs de Bethléem, en Judée, région où les sycomores ne poussent pas, il était contraint de se déplacer et d'aller en Israël pour exercer son métier. C'est donc un laïc. Et il intervient en Israël comme étranger, puisqu'il est lui-même originaire de Juda. On ne peut parler de plus mauvaise préparation. Mais il a reçu une injonction avec laquelle on ne transige pas. Et il l'a décrit lui-même comme ça au chapitre 3 et au verset 8. Le lion rugit. Qui n'aurait pas peur ? Le Seigneur Dieu parle. Qui n'agirait pas en prophète ? C'est donc pour lui, on ne peut plus simple. Mais pour nous, on ne peut plus dérangeant. Car les questions auxquelles il nous faut répondre maintenant sont : sommes-nous assez sourds pour ne pas entendre un lion rugir ? Et comment peut-on agir en prophète aujourd'hui ? Mais quand les paroles de la Bible nous dérangent, nous interpellent ou nous bousculent, ce n'est jamais juste pour nous mettre mal à l'aise ou pour nous décourager. Il y a toujours une intention positive pour nous faire progresser, pour nous faire avancer avec le Seigneur. Alors comment faire pour aller au-delà du malaise et du découragement? Et pour cela, je vous invite à lire un passage bien connu du Nouveau Testament, celui où Jésus décrit le jugement dernier. Texte que l'on trouve dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, assoiffé, étranger, malade ou en prison, et sommes-nous venus à ton secours ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, on va trouver la même passage, mais adressé maintenant à ceux qui sont rejetés. Et on retrouve le même texte, tout à la négative. Et avec le même étonnement également de ceux qui se trouvent rejetés et qui demandent « Mais Seigneur, quand ne t'avons-nous pas vu ?» Et le roi répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Comme Amos, Jésus parla d'événements qui se situent dans le futur pour ses auditeurs. Il parle de son retour et du grand jugement qui lui est associé. Bien évidemment, cet événement futur décrit de façon imagée avec un roi siégeant sur son trône et qui fait le tri entre les brebis et les chèvres, est une façon pour Jésus d'amener ses auditeurs à poser un regard différent sur le temps présent. Et c'est également l'objectif d'Amos. Et souvent, avant de nous révéler l'avenir, les prophéties bibliques interpellent ceux qui les entendent pour qu'ils remettent en cause leur comportement présent. Et la grande surprise des protagonistes de cette histoire, c'est la révélation que Jésus était là où il ne l'avait pas vu, et peut-être là où il ne l'attendait pas. Car si Jésus, au jour du jugement, apparaît glorieux, tel un roi sur son trône, il était à cette époque-là avec les plus petits, ce qu'on ne remarque à peine ou qu'on préfère ignorer, mais que lui, il appelle ses frères. Aujourd'hui encore, Jésus est le frère de ceux qui souffrent, de ceux qui ont faim et soif, des étrangers, des démunis, des malades, des prisonniers. Il est frère des réfugiés qui fuient la guerre ou la persécution dans leur pays. Il est frère des immigrés qui se retrouvent en centre de rétention. Il est frère des SDF qui dorment dans nos rues. Il est frère des personnes âgées dans les maisons de retraite qui ne reçoivent jamais de visite. Il y a 3000 ans, Amos s'indignait devant l'injustice faite aux métayers obligés de se vendre comme esclaves et de remettre ainsi leur vie entre les mains de leur maître. Il y a 2000 ans, Jésus est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Il a été ignoré, rejeté par les siens. Il a été prisonnier, nu et abandonné. Il est mort, crucifié, condamné alors qu'il était innocent. Aujourd'hui, il est le frère des petits, ceux qu'on remarque à peine ou qu'on préfère ignorer. Nous comporter en prophète aujourd'hui, c'est chercher Jésus là où il est, dans ces petits qui nous entourent et ont besoin de nous. Et cela peut nous amener à reconsidérer le sens et la portée de nos actes de générosité. Une autre façon de voir dans ce texte une interpellation de notre présent, c'est de souligner que les paroles de Jésus révèlent la véritable nature et les motivations de nos actes. Et du coup, les paroles de Jésus n'ont pas la même saveur pour les uns et pour les autres. Pour ceux qui ont accepté le royaume, elles ont une valeur insoupçonnée. Ce qu'ils ont fait gratuitement, simplement, sans arrière-pensée et avec pour seule motivation la bonté, la solidarité, la fraternité, avaient en réalité une portée bien plus grande qu'ils ne le soupçonnaient. Ce qu'ils ont fait à ces petits, c'est à Jésus qu'ils l'ont fait. C'est finalement une valorisation, une façon de valoriser les simples actes de générosité et de partage du quotidien. Ils ont de la valeur. Nos actes les plus modestes peuvent avoir une valeur bien supérieure à ce que nous imaginons. Mais on est bien dans l'esprit de l'Évangile. Le royaume de Dieu se manifeste souvent dans les petites choses, dans la simplicité et dans l'humilité. Nous avons à plusieurs reprises parlé ici de la campagne Exposed. Et nous nous sommes peut-être poser de nombreuses questions sur son efficacité. Au bout de 2 ans, elle est maintenant terminée, puisqu'elle avait pour objet d'inciter les membres du G20 à prendre des mesures contre la corruption qui sévit partout et frappe surtout les plus pauvres. Nous avons été à peu près 150 000 à signer la pétition, envoyer un message aux responsables politiques signé par des responsables chrétiens représentant à peu près 1 milliard de chrétiens. Et certains ont fait le voyage à Brisbane, en Australie, le mois dernier, pour manifester au moment où se tenait le sommet du G20, appelé à prendre ses décisions. Et comme vous avez pu le constater dans les médias, la lutte contre la corruption progresse. Des mesures sont ou seront prises. Bien sûr, la campagne expose seule n'a pas provoqué ce résultat. Mais c'est là une façon de se comporter en prophète du XXIe siècle. Les paroles de Jésus ont un goût amer pour ceux qui sont rejetés. Ils sont surpris eux aussi, mais négativement. Et dans ses reproches, Jésus ne vise peut-être pas simplement les insensibles égocentriques qui ne pensent qu'à leur portefeuille. Ceux-là, évidemment, sont concernés au premier chef. Mais on peut considérer que parmi les rejetés, certains ont pu visiter des malades et aider des nécessiteux. Mais peut-être en faisant un tri, en choisissant ceux qui méritaient leur compassion. Un détail du texte, outre les protestations des intéressés, permet d'étayer cette lecture. Il y a une petite différence entre les versets 40, entre le verset 40 et le verset 45. Au verset 40, Jésus parle « l'un de mes frères, l'un de ses petits ». Au verset 45, Jésus dit seulement « l'un de ses petits ». Il ne les nomme plus ses frères. Pourtant, ce sont bien les mêmes personnes qui sont désignées. Et il y a peut-être là un indice que la générosité des seconds était sélective. Ils ont bien aidé, mais seulement ceux qu'ils considéraient comme les frères de Jésus. Des nécessiteux qui méritaient leur aide, ou des aides dont ils pouvaient finalement retirer quelque chose, ne serait-ce qu'une bonne conscience. En ces mots, les paroles de Jésus doivent interpeller nos motivations à faire le bien. Une générosité intéressée finira toujours par laisser un goût amer. Une générosité simple et naturelle, sans arrière-pensée, finira toujours par nous réserver de bonnes surprises. Alors le malaise a-t-il été complètement dissipé? Ou en partie seulement peut-être? Mais c'est bien ainsi. Car ces textes doivent garder leur force d'interpellation. Ils ne sont pas là pour nous caresser dans le sens du poil et nous donner bonne conscience. Mais ils ne sont pas là non plus pour nous faire peur et nous mettre la pression. Ils nous invitent aujourd'hui à discerner le Christ là où on ne l'attendait pas forcément. Auprès des humbles, des petits, des nécessiteux, oserais-je préciser, sans leur demander leur certificat de baptême. Il y a bien une mise en garde contre une charité intéressée, une bonté qui cache des motifs bien égoïstes. Dans ce cas, les paroles de Dieu doivent conserver leur saveur amère. Mais il y a aussi une promesse pour les actes de bonté du quotidien, simples et naturels, sans arrière-pensée. C'est dans ces petites choses que le Christ nous donne rendez-vous. Et c'est là que nous devons le rencontrer. Finalement, ces textes sont parfaitement adaptés à la période, celle des bonnes résolutions pour l'année nouvelle. Demandons à Dieu la force de ne pas les oublier dès la semaine prochaine et de nous comporter individuellement et collectivement en prophète du 21e siècle. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter un cantique dans le recueil arc-en-ciel « Trouver ma vie », le cantique numéro 601.
Fait-il le retour.